Alors aujourd'hui, je vais développer un seul verset. Je pense que c'est bien. Je vais dire le verset. Il est vraiment fort le micro, on ne peut pas le baisser un peu. C'est ça. Tu veux que j'aille le descendre, Paul? Désolé, ça me dérange, j'entends ma voix. Paul est fatigué, il faut prier pour lui. Il fait l'ouverture, fermeture, il travaille. Et en plus, quand il vient à l'église, on le torture avec tout ce qu'on lui demande. Merci, Paul. Ça va pour vous qui vous êtes sur Zoom? Vous entendez bien ma voix? Je pense que Julio et Robert aussi. Ok, très bien. Le verset, il est hyper connu, que j'aimerais développer ce soir. C'est 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Je suis même sûr que vous pouvez le dire. Est-ce que quelqu'un peut le dire par cœur? 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu. Quoi d'autre? J'ai combattu le bon combat. Exactement. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Alors, nous l'avons déjà entendu à pas mal de reprises, que la deuxième épître de Timothée, c'est parmi les dernières que l'apôtre Paul a écrit. Et pas mal de théologiens se disent, et je pense que c'est vrai, les dernières paroles de l'apôtre, c'est pas les plus importantes, mais c'est pas loin d'être les plus importantes. Mais je crois aussi que s'il a dit ça, c'est pas un hasard, parce que chaque mot en grec a une signification vraiment particulière. À quel moment on sait que c'était un peu à le dernier moment de sa vie, c'est au verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation. Ça veut dire qu'il sait qu'il va, le moment de mon départ approche. Ce que j'aimerais faire en raccourcissant le maximum l'étude, c'est juste développer 5 mots avec vous, si vous êtes d'accord. Donc je vais répéter le verset 2 Timothée chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Essayez de se le redire personnellement. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Ce verset, bien sûr, qu'il est au-delà, qu'il est plus que riche, ça nous montre que nous sommes dans une vie de combat, dans une vie aussi de défi. Mais j'aime la conclusion de l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je vais parler, le premier mot, c'est le combat. J'ai combattu. Le mot combattu et combat, c'est exactement la même racine. Le mot combattu, c'est agonizamai, ça veut dire combattre, mais plus précisément, de toutes mes forces. Et le mot combat, ça nous vient du mot agon, et là j'aime bien. Ça veut dire mener, comme mener en combat, amener, chercher, conduire, combat contre les obstacles. J'aime bien ce mot combat, le mot agon en hébreu. J'aime bien parce que ça nous parle de mener, chercher, conduire. Et pour l'apôtre Paul, non seulement il a mené un groupe dans ses voyages missions, etc., mais lui-même il s'est fait amener. Vous vous rappelez par qui il a été amené auprès des disciples? Comment il s'appelait ce disciple, vous vous rappelez? Barnabas. Actes chapitre 9, verset 27. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le même mot, agon, le conduisit, encore une fois c'est le même mot, vers les apôtres, et lui racontera comment sur le chemin de Saül avait vu le Seigneur qui lui avait parlé. J'aime ça. Barnabas a conduit l'apôtre Paul. Comme pour nous en tant que chrétiens, j'ai déjà entendu le témoignage de la grand-mère de Paul. La grand-mère de Paul a conduit Paul vers le Seigneur. Et j'aime ça. Donc l'apôtre Paul, quand il dit voilà le mot combattu, c'est aussi me laisser conduire par les autres. Non seulement je mène moi-même une équipe pour annoncer l'évangile, pour implanter des églises, etc. Mais surtout, il s'est laissé conduire. Mais pas par n'importe qui. par celui qui est le fils de l'exhortation ou le fils de repos. Et j'aime ça. Dans notre vie chrétienne, nous ne sommes pas nés tous chrétiens. Un jour, quelqu'un nous a témoigné. Un jour, quelqu'un nous a parlé de Christ. Et on s'est laissé mener à Christ. Mais la mission, le combat ne s'arrête pas là. Le combat, c'est que dans la société dans laquelle nous sommes, le Seigneur veut nous utiliser comme il a utilisé certaines personnes dans notre vie. Il veut nous utiliser, nous, pour amener d'autres personnes à Christ. Ça, c'est la première partie de ce mot. Mais il y a une autre partie, vous savez ce que c'est? La prière. Quand on prie, Seigneur, je te prie pour telle personne qui ne te connaît pas, d'une manière ou d'une autre, c'est de amener ce qui est lourd, comme je disais dans la définition, combat contre les obstacles. C'est-à-dire que la prière, c'est reconnaître aussi notre état de faiblesse, nos manquements. La prière, c'est de reconnaître notre dépendance de Dieu. Donc, dans un sens physique, nous amenons les gens au Seigneur. C'est ce qu'on fait par notre vie, c'est ce qu'on fait par l'évangélisation, etc. Mais également, toujours le mot conduire, parce qu'il y a trop d'obstacles, par la prière auprès des gens. Donc, d'une manière ou d'une autre, comment l'apôtre Paul, il commence? Souvent, je me souviens de vous dans la prière. Alors oui, physiquement, il a conduit son équipe, il a conduit le voyage, il a été la tête, etc. Mais également, toujours à gauche, c'est conduire les choses qui nous dépassent par la prière. Et ça, c'est aussi deux manières de combattre. S'engager, mais tout en reconnaissant, en disant, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Lorsqu'on prie pour une guérison, comme pour Louise, comme pour une maison de retraite, comme pour des choses qui nous dépassent, c'est conduire ces obstacles en disant, Seigneur, c'est trop pour moi, je te les dépose. Encore une fois, pour conclure ce petit point, le mot combat, c'est physiquement je m'engage, mais également spirituellement des choses qui me dépassent. Vous vous rappelez ce que le Seigneur dit? Matthieu chapitre 17, versets 20 et 21, pour appuyer le côté prière. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de sénové, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transportera. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon, de combat, d'obstacle, ce que vous voulez mettre là-dedans, ne sort que par la prière et le jeûne. Vous vous rappelez le contexte? Les disciples, ils étaient sur le champ missionnaire en quelque sorte. Mais dans le champ missionnaire, il y a des obstacles qu'il n'y a que par la prière. Et c'est le même mot qui est utilisé à go. C'est vraiment fabuleux. Là, je vais passer sur le mot « le bon combat ». Je ne parlerai pas de combat parce que c'est le même mot, la même racine que « combattu ». Mais j'aimerais parler « le bon combat ». Si l'apôtre Paul nous parle de « bon combat », c'est qu'il y a également le « mauvais combat ». Le mot « bon », en grec, ça nous parle de « kalos ». Et j'aime bien « qui surpasse », « qui est précieux », « qui est utile ». Qui est convenable, qui est admirable. Waouh! Et j'aime ça parce qu'il vient d'une racine qui en grec c'est adunatos, qui est un combat qui est impossible pour nous. C'est vraiment fabuleux comme c'est lié. Encore une fois, comme je disais, le verset Jean 15, 5, je suis le cep, vous êtes les serments, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est bon de se souvenir ça, n'est-ce pas? Encore un exemple de mauvais combat. Vous vous rappelez le passage lorsque les disciples sont, comment dirais-je, attrapés par les pharisiens, ils sont maltraités, ils les libèrent, ils leur disent, Voilà, je vous ordonne de ne plus parler au nom de Jésus. Regardez ce que comment il s'appelle? Gamaël dit. Actes chapitre 5, verset 39. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas détruire. On parle de l'œuvre. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Vous voyez, si on a le bon combat, il y a le mauvais combat. Maintenant, je vais vous donner un exemple dans l'Ancien Testament. C'est le roi Saül. 1 Samuel 14, de verset 24 à 30. Je vais le lire. La journée fut fatigante. En fait, je vais carrément le tourner parce que j'ai oublié le verset avant. 1 Samuel, chapitre 14. Verset, à partir de verset 23. L'Éternel délivra Israël en ce jour-là et le combat se prolongeait jusqu'au-delà de Beth-Aven. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait juré le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis et personne n'avait pris de nourriture. » Tout le peuple est arrivé dans la forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait. Il avança avec le bout de son bâton qu'il avait à la main. Il plongea dans le rayon du miel, il ramenait la main à la bouche et ses yeux furent éclaircis. Il regardait un peu plus loin, le verset 29. Et Jonathan dit, « Mon père trouble le peuple. Voyez donc comment mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé de butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande ? » Mais je vais développer un tout petit peu ce passage pour vous dire que, verset 23, l'Éternel a délivré Israël. Saül, qui a commencé à se battre de la mauvaise manière, regardez le mot, la journée fut fatigante. Le mot fatigant en hébreu, c'est négas. Ça nous parle de oppression, opprimé. Au lieu que le roi Saül puisse profiter de la victoire que Dieu lui a donnée, il a décidé d'opprimer davantage le peuple pour peut-être s'enorgueillir, pour peut-être se dire « Ah mais le combat finalement c'est le mien, c'est ma victoire à moi. » En gros, au lieu de profiter de la victoire que Dieu lui a donnée, il veut se créer une autre victoire. Regardez ce que Jonathan, donc le mot comme je disais tout à l'heure, « Mon père trouble le peuple. » Il regardait à la fin du verset 28. Or, le peuple était épuisé. Peut-être si le peuple aurait juste, avec le roi Saül, aurait juste profité de cette victoire que Dieu a donnée, il pouvait se reposer. Rappelez-vous le psaume 46, verset 10. Le combat, arrêtez, sachez que je suis l'Éternel. Mais en d'autres termes, on peut dire, oubliez pas le combat, la délivrance, les obstacles que vous avez, c'est Dieu qui peut donner. Mais il y a un mot qui m'intéresse, moi, là-dedans. Le verset 30. Ça nous parle le mot « certes ». Et je vais m'arrêter sur ce mot. « Si le peuple aujourd'hui ». Le mot « si » en hébreu, ça nous parle de « louve ». Désolé la prononciation. En d'autres termes, on peut le traduire par le mot « qu'il en soit ainsi ». Je m'explique. Si seulement on pouvait, au lieu de poursuivre l'ennemi pour une victoire, pour enorgueillir une personne, si seulement on pouvait profiter de ce que le Seigneur nous a donné, ça n'aurait pas été la même victoire. Si seulement, aussi épuisés que nous étions, si seulement on pouvait se reposer, la victoire était plus grande. C'est-à-dire que là, Saül opprimait le peuple et c'est devenu un mauvais combat contre son peuple, à tel point qu'il a failli tuer son fils Jonathan. C'est dingue le cœur de l'autre humain. Mais tout ça pour vous dire qu'on combat le bon combat, oui, L'apôtre Paul, il écrit ici, il y a un bon combat, mais il y a également un mauvais combat, et notre cœur, il est tellement tordu qu'on pense même que c'est un bon combat lorsque nous opprimons le peuple de Dieu. Vous avez suivi un peu? Vous voulez que je répète? L'apôtre Paul nous parle de bon combat. Au départ, il y a un bon combat. Dieu a donné la délivrance. Mais par l'orgueil ou par la vengeance qui, d'ailleurs, c'est surprenant, une parenthèse. Deux fois dans la Bible, ça marque à moi la vengeance. Une fois dans l'Ancien Testament, une fois dans le Nouveau Testament. La vengeance, ça appartient à l'Éternel. Même si des gens l'utilisent. Mais revenons, Saül, parce qu'il voulait se venger, parce qu'il voulait, regardez, je veux avoir ma victoire, de bon combat où Dieu a donné la délivrance, c'est devenu un combat où il opprimait le peuple de Dieu. Si seulement il pouvait juste s'asseoir, se reposer et profiter de ce que le Seigneur nous donne. L'apôtre Paul, oui, on peut dire que c'est un bon combat, parce que pour nous aussi, qu'est-ce que ça veut dire le bon combat? Comment on peut être sûr qu'on combat le bon combat? C'est lorsque on marche par la foi. Lorsque nous saisissons les armes, Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre toute domination spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a certains combats, déjà le combat ça appartient au Seigneur, ça c'est clair et net, mais à certains combats, c'est peut-être tout simplement de se mettre à genoux en disant « Seigneur, je te laisse combattre ». Dans la Bible, nous avons beaucoup d'exemples où des gens, ils étaient si faibles. Je pense au roi Ézéchias, il était si faible face à la multitude des hommes qui sont venus. Le combat, Seigneur, c'est à toi. Il t'insulte, oui, ça fait mal au cœur. Lorsque des gens se moquent de notre Dieu, oui, ça nous touche. Seigneur, c'est trop grand pour moi. Je préfère que c'est toi qui agisses. Lorsque vous pensez que le cœur de David, le fait d'être chassé d'Israël par le roi qui servait, le fait de fuir sa famille, le fait de tout ça, vous pensez que son cœur n'a pas été blessé? Mais David a choisi de combattre à la bonne manière. Seigneur, si tu veux que je devienne le roi, tu te débrouilles pour ôter le roi Saül. Moi, je ne veux certainement pas me venger. En quoi le roi Saül devait se venger? Il avait la victoire. Il avait la victoire. Parce qu'il avait oublié le mot « si seulement ». Je pouvais juste m'asseoir dans le repos, dans le calme et la tranquillité sera votre victoire, votre salut. Je crois que c'est ça le verset. Votre force. Merci Isabelle. Dans le calme et la tranquillité. Parce que la victoire, ils l'ont donnée. Maintenant, j'aimerais le mot parler de achever. Donc, combattre, amener les gens à Christ, amener tout ce qui est lourd en nous à la croix, Seigneur, je te les dépose. Le bon combat, c'est prendre ce que Dieu nous a donné, les armes que le Seigneur... Par exemple, juste pour finir ce point, lorsque Jésus a été tenté dans Matthieu 4:4, Luc 4:4, il n'a pas été... Insulter le diable. Il a utilisé ce que Dieu lui a donné. Ce que lui-même, il est la parole. Il est écrit. Il est écrit à tes souhaits. Maintenant, j'aimerais parler du mot achever. C'est très intéressant comme mot, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le mot achever, lorsqu'on regarde dans une vie, tout le monde aimerait achever quelque chose. Et pourtant, pas tout le monde arrive. En tout cas, pas de la même manière, pas de la manière que le Seigneur le demande. Ça me fait penser à Ecclésias chapitre 3, chapitre 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je prends par exemple quelqu'un comme Noé, qui a pris 100 ans pour construire une arche. Genèse chapitre 6, verset 22. Il exécuta ou achevait tout ce que le Seigneur lui ordonna. Moïse, Nombre chapitre 7, verset 1. Lorsque Moïse eut achevé de dresser la tente, il oignit, il sanctifia avec tous les ustensiles, etc. Et le mot achevé, je ne vous ai pas dit ce que c'était. C'est être accompli c'est achevé, mais ça nous parle également de maturité. Alors le Seigneur ne nous demande pas à nous personnellement de construire une arche, ou un temple, ou un bâtiment, ou autre chose. Mais est-ce que, c'est une question que je vous pose, est-ce que le Seigneur nous a confié une mission? La mission pour Noé, ça fait penser à des répliques que des fois on utilise avec Marion. Votre mission, si vous l'acceptez, je crois que c'est ça Marion, non? Si vous l'acceptez, je ne dirais pas le film. Voilà, Dieu nous a donné une mission également pour nous. Je crois que c'est mission impossible. Voilà. Dieu nous a donné une mission et nous avons, comment dirais-je, le choix de l'achever, de l'accomplir ou pas. Regardez, 2 Corinthiens 3:18. Nous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image de gloire en gloire, comme par le Seigneur Esprit. Déjà, une des missions qu'il nous a donné, c'est juste de grandir, de vivre. Deuxième mission très connue, hein, Matthieu chapitre 28, verset 19, à l'effet de toutes les nations des disciples. Encore une fois, ça nous rappelle le mot combat. Chercher, amener les gens au Seigneur. Une autre mission, Matthieu chapitre 18, verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom je suis au milieu d'eux. C'est de refléter Christ. C'est aussi une manière d'achever sa course. Matthieu 5, 18, Matthieu 5, 16, c'est le thème de l'année. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Par notre relation que nous avons les uns pour les autres, l'amour que vous avez les uns pour les autres, le monde verra que je suis vivant. C'est notre mission. On peut l'accepter comme on peut refuser. Un dernier verset. Encore une fois. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. J'ai oublié cette mission, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est ça le mot achevé. La mission que Dieu nous a donnée, elle est merveilleuse. Dieu a choisi de nous utiliser, ça me fait penser à ce verset, je n'ai pas noté la référence, d'Ésaïe, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Quelle mission merveilleuse! Nous sommes des ambassadeurs de paix. Nous sommes le temple du Seigneur. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière. Quelle belle mission nous a donnée. Et si le Seigneur revient aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir ce regret? La réponse est non. Si aujourd'hui nous mourons, on peut dire exactement comme l'apôtre Paul, j'ai achevé la course parce que j'ai accepté la mission que le Seigneur m'a donnée. Ça va, je vais pas trop vite? Très bien. J'aimerais parler d'un autre mot qui est très proche, le premier mot achevé c'est téléo. Et là le mot garder c'est téréo. Ah, j'aime bien ça. Garder, prendre soin, s'occuper. Alors oui, ça m'a fait penser au verset à l'évêque. Le mot évêque, c'est le mot garder, surveillant. Mais je pense qu'il y a un peu plus que ça. C'est vraiment prendre soin de l'œuvre que Dieu nous a donnée, comme le point précédent. Comme je disais tout à l'heure, croître dans la connaissance, annoncer l'évangile, briller, etc. Mais j'aime bien le mot prendre soin de l'œuvre. C'est vraiment, ça me fait penser à Néhémie chapitre 6 verset 3. Vous savez qu'il y a les ennemis qui viennent, ils demandent à Néhémie de descendre en disant viens, on va parler. En fait, c'est pour le piéger. Mais j'aime bien la réponse de Néhémie. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne peux pas descendre. Nous, des fois, c'est même pas des fois. On peut pas être possédé par un démon. On peut pas être, comment dirais-je? Non, on va dire, on peut pas être possédé, mais on peut être influencé par les forces, par les démons, etc. Et une des choses, enfin, un des objectifs que eux, ils ont, c'est de nous arrêter dans ce que le Seigneur nous a appelé. D'arrêter l'ouvrage que le Seigneur fait en nous, mais également que le Seigneur fait à travers nous. Prenons un exemple. Néhémie, Dieu l'a mis à cœur de construire la muraille historique. Le diable, via des hommes, s'est toujours opposé au plan de Dieu. Ils veulent détruire ou empêcher que l'œuvre de Dieu se poursuit. Vous vous rappelez, au temps de Esdras, on a commencé à bâtir les fondations de la maison. Il y a eu des hommes qui sont venus. Ils ont écrit une lettre au roi. Ils ont stoppé direct l'œuvre. D'une manière ou d'une autre, c'est exactement ce que le diable et, on va dire, son armée veut faire envers nous. Dieu nous a donné une mission, comme on avait vu le mot plus haut, et il veut nous empêcher un maximum par des découragements, parfois par du rejet de la part des personnes. Ça peut être par la maladie, ça peut être par plein de choses. Il veut nous empêcher de rentrer dans l'appel que Dieu a pour nous, mais également de répondre à l'appel de Dieu. C'est complètement dingue, mais c'est une réalité. Un chrétien qui pense que nous sommes pas dans un combat, il se trompe lui-même. Nous sommes dans un combat. Si le Seigneur est avec nous, si le Seigneur a choisi de nous utiliser aussi faibles que nous sommes, l'ennemi va tout faire pour s'opposer. De la même manière qu'ils se sont opposés à Christ, il s'est opposé aux apôtres, ils vont s'opposer également avec nous. Prenons un exemple concret dans notre vie. Combien de fois ça nous est arrivé, lorsque nous commençons à annoncer l'évangile, la première ou la deuxième personne, parfois les deux, vraiment c'est le truc pour te dépiter, pour te décourager à continuer. Et c'est là que comme je disais tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 6, ce sont des armes spirituelles. On doit prendre. Seigneur, là dans ce combat-là, c'est trop lourd pour moi. Et souvent, on est comme le roi Saül, on se comporte en disant, c'est beau, je vais à l'évangélisation par mes propres moyens. Et c'est là qu'on se trompe. Je vais raconter un témoignage. Au début, quand j'ai commencé à annoncer l'évangile, pendant un ou deux ans, quand je suis arrivé dans l'église, je n'annonçais pas l'évangile. Parce que j'avais peur ou parce que peu importe la raison. Et Helmut qui m'a beaucoup encouragé, vas-y Horacio, on y va ensemble. Je dis ok. Tu vois, au bout de deux ans ou trois ans, j'ai pris courage. Je dis super, j'y vais. Premier traité que je donne à des témoins de Jéhovah. Je dis ah ben super. Tu sais, tu prends tellement de courage et tout d'un coup tu le donnes, boum, tu dis ah ok. Bon. Après, je quand même continuer parce que le Seigneur a travaillé mon cœur. Ça, je pense que c'est l'effet des cours bibliques. En parenthèse. Là, qu'est-ce que je fais? Je prends toutes mes forces. Je commence à témoigner. Et j'essaie de convaincre les gens. Oh la vache. Refuse. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et j'ai discuté avec Pasteur Texier. Et Pasteur Texier me dit, mais pourquoi tu essaies de convaincre les gens? Je dis, bah, quand même, j'aimerais bien qu'ils viennent à la foi. Je dis, mais c'est pas ton job. C'est pas ton combat. C'est pas toi qui vas ôter les obstacles pour briser les cœurs de pierre. Et là, il y a eu un, en gros, fais ton job et laisse Dieu faire son job. Mon job, notre job, en tant que communauté, église, personne, disciple, enfant de Dieu, c'est de briller. La manière que les autres reçoivent la lumière, ce n'est plus notre problème. C'est le problème de Dieu. Alors oui, bien sûr, je vais pas m'amuser. Tu refuses un traité, tiens, boum. Non. Je vais pas faire comme ça. Je continue à témoigner que les gens acceptent ou que les gens n'acceptent pas. Ce n'est pas mon job. Chacun fait son job. Et je crois que c'était un peu le problème de Saül. Le Saül a voulu, comment dirais-je, amener une plus grande victoire au-delà de ce que Dieu a donné. Et c'est pas notre job. Mais tout ça pour vous dire, voilà, prenons soin. C'est déjà énorme ce que le Seigneur nous a donné. Pas besoin de se rajouter un joug qui est lourd, qui est encore plus pesant, en se mettant comme certains légalistes. Ah non, mais l'évangile, c'est trop simple. Ouais, mais attention. Si tu vis le véritable évangile, c'est pas si simple que ça. Prends soin de ce que le Seigneur t'a donné. Si le Seigneur t'a donné le chant à cœur et que peut-être tu te dis, mais je ne sais pas chanter, prends des cours, juste, ou le nettoyage. C'est peut-être simple pour le monde, mais c'est à travers ça que le Seigneur va se glorifier. Parce que le reste, c'est à Dieu. Néhémie ne s'est jamais posé la question, est-ce que cette muraille va être achevée? C'était pas son job. Son job, c'était de commence à bâtir toi-même. Noé, c'était pas son job de se dire, mais 100 ans, c'est loin. Quand est-ce que cette arche va être achevée? Dieu, il sait toutes choses. Vous pensez que Noé, quand il va commencer, il dit, oh là là, j'entends, comme le monde, c'est ce que le monde fait. T'as un temps défini pour atteindre un objectif, et c'est souvent inatteignable. Dieu ne te demande pas un objectif. Dieu te demande tout simplement, marche. À Abraham, il lui a dit quoi? Genèse chapitre 12, sors. Sors. Tu sais pas où, mais juste fais le pas de sortir. Mais voilà, Dieu nous a donné tant de choses. La parole, la prière, l'église, les âmes perdues, nos relations, cette communauté. Prenons soin. C'est déjà beaucoup. Mais laissons Dieu nous utiliser. Voilà. Prenons soin ensemble. Pourquoi? Parce que le but, c'est qu'à travers tout ce que le Seigneur nous a donné, c'est qu'il produit son nom une vie en abondance. La vie Zoé. Regardez, qu'est-ce qu'on peut chérir? Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de certains, mais exhortons-nous réciproquement. Exhortons-nous. C'est le principe d'une église. Prenons soin là où Dieu nous a placés. Prenons soin de notre famille. Prenons soin de notre entourage que le Seigneur. Parce qu'en prenant soin, on va communiquer la vie Zoé aux autres. Et d'une manière ou d'une autre, on va combattre puisqu'on va attirer les gens, pas à nous, mais à Christ. On va prier pour les gens. On va ôter les obstacles qui peuvent amener entre nous et ne pas vivre cette plénitude de vie. Et le mot prendre soin vient d'un autre mot qui vient terrio. Ça veut dire regarder, apercevoir, connaître. Où est-ce qu'on peut voir la vie de Christ? Oui, on peut parfois se regarder dans le miroir. On peut parfois, lorsque le Seigneur nous pousse à renoncer à certaines choses, oui, on peut voir que le Seigneur travaille notre cœur. Mais c'est ensemble que nous pouvons voir. Parfois, deux personnes dans l'église peuvent traverser les mêmes situations. Peut-être ça paraît visuellement que c'est plus facile pour l'un ou pour l'autre. Mais justement, si le Seigneur a voulu l'église, la communauté, c'est pour se soutenir ensemble. Et lorsque nous sommes les uns les autres, on peut regarder, on peut apercevoir cette vie qu'il y a entre nous, qui nous lie. Lorsque Job, vous connaissez la vie de Job, Job chapitre 1, Job chapitre 2, il était un peu religieux, il faisait des sacrifices pour ses enfants au cas où s'ils ont péché. Encore une fois, il faisait le job de Dieu. Job, c'était de vivre la vie. Et à la fin de sa vie, à la fin du livre, Job 42, verset 5, c'est un des versets préférés que j'aime. J'ai entendu, maintenant je vois. Et c'est ça qu'on fait dans l'église. Et c'est ça quand on fait, qui nous garde aussi à combattre le bon combat, achever la course. Et il nous reste le mot foi. On en parle beaucoup, pistis. La foi dans quoi? La foi dans les promesses de Dieu qui sont oui, amen, de Corinthiens 1, 20. La foi que Dieu est pour nous. La foi qu'il sera toujours auprès de nous. Matthieu chapitre 28, verset 20. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Et on peut se poser la question. Imaginez du point de vue de Paul. Au verset 6, il dit « Je vais bientôt mourir d'une manière violente. » Lorsque je regarde en arrière, je dis « Waouh, le Seigneur a été fidèle. Ça va être douloureux ce qui m'attend, mais le Seigneur va être fidèle. » Et en plus de ça, au verset 8, la couronne. La couronne, elle m'attend. Pistis, la foi dans les promesses. La foi que le Seigneur prépare une place pour nous. La foi qui nous donne la paix malgré la difficulté qui est là. C'est perdre la tête quand même. Hein. C'est pas juste avoir un bobo, c'est pas juste avoir le Covid ou autre. La difficulté. Mais il ne s'est pas laissé décourager parce qu'il a combattu le bon combat, il a achevé, comme les mots que je viens de dire. Tout ça, c'est fait. C'est que temporaire sur cette terre. Rappelez-vous l'apôtre Jacques, notre vie est comme une vapeur sur cette terre. Mais le pistis, la foi, la couronne nous est réservée. La place que le Seigneur prépare pour nous, elle est déjà prête. C'est ce qui nous attend. Et je pense que l'apôtre Paul se concentrait davantage sur le verset 8. Dieu a été fidèle. Je vais souffrir, mais je sais où je vais aller. Et quand il parle, mourir m'est un gain, c'est plus que réel pour lui. C'est un gain. Pourquoi? Parce que je vais aller dans ma patrie. Je vais aller chez moi. Je vais arrêter d'être, comment dirais-je, un pèlerin sur cette terre. Dans ma marche de pèlerin, j'ai rencontré des difficultés, j'ai été lapidé, je ne vais pas vous faire ça sans curriculum vitae. Mais tout ça, ça lui a donné la force de combattre, d'achever, de prendre soin de ce que Dieu lui a mis à son cœur, de son appel, parce qu'il savait que plus loin, la couronne lui est réservée. Et nous, si on perd cette vision, ce regard de notre demeure céleste, c'est tellement facile de stopper dans ce que le Seigneur nous a donné, de stopper notre mission. On peut stopper. Vous savez, quand je choisis ce sujet, j'avais un autre en parallèle. Comment dirais-je? Voilà, c'est ça. Comment croire Dieu alors que mes yeux voient le contraire? Ça, c'était le premier thème que j'ai choisi. Ça m'a fait penser à, vous savez, à le scribe qui a écrit pour Jérémie. Comment il pouvait croire? Tout était détruit autour de lui. Croire que sa vie est un butin, alors que peut-être que tu reçois des flèches autour de toi, des cailloux qui tombent autour de toi, les morts tombent. Comment tu peux croire? Et je crois que c'est le regard de Pistis, le regard de la foi. Dieu l'a dit, point. Comment, comme Paul, il peut croire que le meilleur est devant lui, alors qu'il est en train de traverser, alors qu'il est en prison, alors qu'il est en train d'être lapidé? Comment Étienne pouvait accepter et garder cette foi intacte alors qu'il recevait des cailloux sur la tronche? Parce que son regard était sur l'ultime promesse. Oui, les promesses que Dieu a faites pour nous sur cette terre, ils sont oui, amen. Oui, le Seigneur fait de nous la tête et nous la queue. Oui, le Seigneur est avec nous. Mais je crois que ce qui nous garde à garder le bon combat en toutes circonstances, la promesse ultime, être avec lui. Et je crois que c'est ça qui va nous donner la force pour continuer, la force pour témoigner dans l'opposition, la force pour prier même si le Seigneur tarde à répondre. Si la promesse est tarde, attends-la. Je crois que cela est possible parce que Paul, chapitre 8, la couronne m'attend. Paul a eu cette couronne, mais nous aussi, on a cette couronne. Regardez les versets. Et je vais conclure avec ces deux versets. Hébreux chapitre 11, verset 38. eux dans le monde n'étaient pas dignes, errant dans le désert, dans les montagnes, dans les cavernes, les antres de la terre. Tout cela, à la foi duquel ils ont rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui a été promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il parvienne sans nous à la perfection. Mais plus haut, les versets 36, 37, 35, 36, 37, il nous parle, certains ont été sciés, certains ont été lapidés, certains ont été torturés. Il parle des choses extrêmement dures. Et je vais conclure par ce dernier verset. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. On peut se le dire nous aussi. Marchons, prenons soin, conduisons les gens dans la prière, les gens à Christ, achevons, gardons les promesses. Et nous aussi, un jour, on va se dire comme Paul, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Est-ce qu'on ne va pas régner avec le Seigneur? Bien sûr que oui. C'est ça qui nous garde pour combattre, pour achever, pour prendre soin, pour garder les promesses, la foi. Ce verset-là, il m'a toujours, c'est ça que j'avais à cœur, c'est un verset, je ne me suis jamais concentré dessus, mais c'est un verset que j'aimerais le dire. Waouh! Moi, personnellement, j'ai combattu le bon combat, achevé la course et gardé la foi. Et je sais que je peux le dire par la foi, en Christ, aujourd'hui. Donc, s'il y a des choses qui nous arrivent, s'il y a des choses, vous n'avez qu'à regarder les médias, je suis un tout petit peu la politique européenne, il y a tellement de choses qui peuvent nous décourager. Prenons soin de ce que le Seigneur nous a donné. Ne soyons pas comme Saül, mais si seulement je pouvais demeurer dans le calme, dans la tranquillité, ce que Jonathan a dit. Donc si nous avons des défaites, si aujourd'hui nous sommes tombés, si aujourd'hui nous avons des obstacles, si aujourd'hui nous avons tant de choses qui sont trop, levons juste notre regard et se dire, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Nous sommes tous inscrits dans le livre de la vie. N'ayons pas peur. Combattons ensemble. On ne peut pas combattre seul, c'est très compliqué de combattre. Même les plus grands héros de la foi, il y a toujours eu quelqu'un à côté. Dieu ne veut pas une vie chrétienne solitaire. Mais ensemble, on peut combattre. Prenons un exemple. Le mot combattre, c'est pas juste combattre dans l'église, on se jette des sièges. Est-ce que nous ne pouvons pas prier les uns pour les autres, comme je disais dans le mot? Est-ce que nous ne pouvons pas nous servir les uns les autres? Est-ce qu'on ne peut pas se garder les uns les autres, s'encourager, se fortifier? La réponse est oui. Mais lorsque la difficulté arrive, et elle arrive, ça c'est clair et net, elle arrive, souvenons-nous de cette promesse. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Waouh! Face à la mort, à la maladie, à ce que vous voulez mettre dedans, à l'incompréhension, à la guerre, ce qu'on veut. Désormais, la couronne de justice est m'est réservée. On va conclure comme ça. Si vous voulez, je peux vous envoyer toutes les notes parce qu'il y en a beaucoup, j'ai de raccourcis. Mais c'est tellement bon. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. On va prier pour conclure. Et bien évidemment, question-réponse, Pasteur Tony, si tu veux ajouter des choses. Mais voilà, désormais, la couronne de justice mais réservé. Seigneur, merci. Merci pour la portion de ce soir. Pour cette promesse que nous passerons l'éternité avec toi, chez toi, dans ta maison, là où, Seigneur, tu prépares le festin, là où tu as préparé une habitation pour nous. Je sais que parfois c'est un peu si éloigné de nous, mais en fait c'est tellement proche. Merci Seigneur pour toutes ces bonnes choses que tu as préparées pour nous. Aide-nous à combattre ensemble. Aide-nous à achever, à prendre soin de la mission que tu nous as confiée. Aide-nous à garder la foi, à garder ta parole, à garder tes promesses. Et de se souvenir, dans la difficulté, dans la maladie, que la couronne de justice m'est réservée. Nous te bénissons, Père de gloire, pour cette merveilleuse parole, pour ces beaux témoignages de l'apôtre Paul. Et je sais que lorsque nous regardons derrière, on voit ta fidélité. Lorsque nous regardons aujourd'hui, on voit ta fidélité. Et lorsque nous allons regarder demain, on verra ta fidélité. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Amen.